On va bien sûr parler de la météo, on revient aussi sur une décision de l'autorité de la concurrence dans un dossier à plusieurs milliards, et on s'intéresse à l'audiovisuel avec ses interrogations à TNTV, mais aussi sur le lancement du FIFO. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On fait un point sur la dépression Nat.
Oui, selon le dernier bulletin cyclonique de Météo France publié ce matin, elle était dans la nuit située à 800 km à l'ouest de Tahiti et à 600 km de Raiatea et devait donc passer vers Mopelia ce mardi. Avant de s'approcher des îles du vent et des îles sous le vent où de fortes pluies sont attendues dans la soirée demain et jeudi, elle devrait aussi entraîner des vents pouvant aller jusqu'à 95 km/h avec des rafales à 130. A noter aussi cette vigilance orange forte houle sur Mopelia et les îles sous le vent. Mais Météo France préfère prévenir la trajectoire qui pour l'instant est placée entre Tahiti et les Australes et l'évolution de l'intensité de Nat reste très incertaine.
Et justement, on s'intéresse aux prévisions.
Et oui, puisque chaque dépression ou épisode pluvieux est l'occasion de retrouver les mêmes discussions sur la fiabilité des informations de Météo France. Dans le cas de cette dépression Nat, le risque de cyclone s'est au fil des jours estompé et les grosses pluies prévues dimanche par exemple n'ont arrosé Tahiti qu'hier. Aucun doute pour certains commentateurs, Météo France manque de fiabilité. Et pourtant l'antenne polynésienne qui surveille le temps sur tout le territoire et toute l'année l'assure. Les prévisions polynésiennes, ce n'est pas de la météo au rabais. La direction assume toutefois une part d'incertitude et d'imprécision, comme l'explique le directeur adjoint Frédéric Troc.
C'est pas si grave que ça d'avoir un peu d'incertitude et d'imprécision. C'est pas quelque chose de vraiment fondamental. Le travail, il est complexe, c'est énormément de paramètres, beaucoup d'expertise à apporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos prévisionnistes, c'est des gens formés. Ils ont fait l'École nationale de la météo, ils ont été recrutés sur concours. On fait partie des services météorologiques de référence à Météo France. On a un centre de recherche, tout ça, c'est pas de la météo rabais. Hein. Ce qu'on a en Polynésie, c'est du niveau de bons services météorologiques.
Et les épisodes pluvieux sont aussi l'occasion de retrouver des comparaisons entre différents outils. Ceux qui ne croient pas en Météo France mettent en avant les prévisions glanées en ligne, notamment sur les sites WindGuru ou Windy, des sites qui ont pour eux une interface interactive qui utilise les mêmes modèles que les prévisionnistes, mais qui sont entièrement automatisés.
C'est des prévisions bien souvent qui ne sont pas expertisées. En fait, WindGuru, il prend un modèle, il prend une possibilité et il dit c'est la bonne et je l'affiche. Ben, si tu fais ce travail-là, de temps en temps t'as raison, de temps en temps t'as tort. Et plus que nous qui faisons justement ce travail d'analyse et d'expertise, notamment sur l'approche probabiliste, parce qu'on est obligé de tenir en compte toutes les possibilités. Tu vois, moi je peux pas prendre un modèle en disant comme ça sans l'avoir étudié, mais ben, je prends celui-là et je dis que c'est ça.
Voilà Frédéric Troc, selon qui les sites proposant ces interfaces en ligne se tromperaient donc plus souvent que l'agence météo. À Météo France, les experts expliquent faire un long travail de comparaison et d'analyse des données au lieu de les livrer brutes. C'est ce qu'il s'est passé dans le cas de la dépression qui se dirige vers le Fénois. Les prévisionnistes expliquent ainsi avoir repéré des zones potentiellement dangereuses favorables à l'apparition de phénomènes tourbillonnaires comme les cyclones, et ce grâce à l'analyse de petits signaux avant-coureurs.
L'idée c'est de pouvoir, dès le début, même avant qu'ils se forment, dire attention, là il faut surveiller, et le fait d'avoir une attention particulière sur cette zone va nous permettre de pouvoir se dire ok, ça a l'air de se former, on va commencer à analyser ça de plus près, et si ça se confirme on va commencer à lancer justement des mises en garde, etc. Parce que derrière il y a un risque que ça se produise vraiment. L'idée c'est vraiment d'anticiper au mieux en étant capable d'analyser des tout petits signaux qui se voient à peine sur une image.
Voilà des propos recueillis par Valkyrie Pereira. On vous le rappelle donc, ce mardi à Tahiti et Moorea, une dégradation pluvieuse est attendue dans la soirée. Elle devrait perdurer demain, une forte houle est aussi attendue.
La houle, on en parle justement, elle a déjà fait des dégâts à Tiarei.
Oui, une partie de la barrière en ciment qui longe la cour arrière de l'école Teahaeha a été détruite. Selon Henri Flore, le maire de Itiaotera, la houle a mis à terre 20 mètres d'un mur en ciment qui s'étale donc sur environ 150 mètres. Ce mardi matin, il s'est rendu sur place avec un conducteur de travaux pour constater les dégâts et faire le point avec la direction de l'école. Selon la mairie, les lieux ont été balisés, protégés et l'école qui accueille une centaine d'enfants de maternelle et de primaire reste ouverte. Les travaux de rénovation sont prévus pendant les prochaines vacances scolaires.
On ouvre une page écho puisque l'APC s'est prononcé sur un dossier à plusieurs milliards.
Oui, on parle là du rachat par CMA-CGM de Bolloré Logistique. Alors pour rappel, le groupe Bolloré a signé en 2023 la vente de sa filiale présente dans le monde entier à l'armateur numéro 3 mondial du transport maritime. Et ce pour la coquette somme de 4,6 milliards d'euros, soit près de 555 milliards de francs. 18 autorités de la concurrence autour du monde ont donc dû donner leur avis sur cette vente, dont l'autorité polynésienne de la concurrence qui a rendu sa copie. Et c'est donc une autorisation de concentration sous condition d'engagement structurel, une mesure plus contraignante par exemple que les engagements comportementaux demandés par l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Les explications du rapporteur du dossier, Maxime Epting.
En fait, on a un acteur monopolistique à l'amont sur le transport de marchandises, Europe-Polynésie, qui veut acheter le numéro 1 du marché aval organisation du transport de marchandises. Fort de ce constat, on s'est rendu compte qu'il y avait des réels risques de verrouillage du marché aval du fait de cette intégration verticale qui serait née de l'acquisition de Bolloré Logistique par CMA.
Alors, au cours de l'instruction du dossier, pas moins de 25 réunions avec un pool de 15 avocats, CMA-CGM a donc proposé de prendre des engagements structurels pour éviter un éventuel refus, la cession dans un délai relativement court de l'activité maritime de Bolloré Logistique.
Ils nous ont proposé comme engagement pour que l'APC autorise cette acquisition de céder l'intégralité de l'activité maritime de Bolloré Logistique. C'est-à-dire que toute l'activité maritime de Bolloré Logistique sur l'organisation du transport de marchandises ne pourra pas être gardée par CMA.
Voilà, et dans le délai avant la revente, CMA-CGM devra aussi respecter des engagements comportementaux, notamment de maintenir cette partie de Bolloré Logistique comme une entité distincte et cessible, le tout sur fond de clause de non-concurrence pour préserver la situation concurrentielle sur le marché des transitaires. La présidente de l'APC, Joanne Père, qui se félicite de la coopération avec l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie et avec la Commission européenne.
Dans le travail de l'APC en Polynésie, c'est la première fois, donc on conditionne une autorisation à des engagements structurels. Ce qui rend ce dossier également très particulier, c'est le fait que ça s'inscrive dans un deal mondial. Ce dossier aussi est un exemple de coopération efficace avec d'autres autorités de concurrence, en particulier l'autorité de concurrence de la Nouvelle-Calédonie et la Commission européenne, puisque la Commission européenne a à se prononcer sur le reste des outre-mer français. Et c'est cette coopération en particulier qui a permis d'aboutir à une solution efficace et proportionnée.
Voilà, des propos recueillis par Caroline Perdry. Le dossier est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Une nouvelle directrice à la DGRH.
Oui, la Direction Générale des Ressources Humaines du pays qui a donc sa nouvelle dirigeante en remplacement de Marine Noguier qui avait présenté sa démission début janvier et quitté son poste ce jeudi. Sa remplaçante est donc Moerani Lehartel, titulaire d'un master en ressources humaines de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Elle a commencé sa carrière en 2012, d'abord à l'Océanienne de services bancaires, puis à l'Océanienne d'industrie, deux filiales de la Socredo. Moerani Lehartel est depuis 2020 à la DGRH où elle est chef de section administration des personnels. Elle est, comme il est d'usage dans l'administration Brotherson, nommée par intérim.
Des contrôles renforcés dans la filière vanille.
Oui, certains producteurs ont été reçus la semaine dernière par le ministre de l'Agriculture, Teyvini Tehey. Ils ont alerté sur l'utilisation abusive de pesticides par certains agriculteurs qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Selon les acteurs de la filière, les producteurs de vanille ne sont pas assez encadrés sur l'utilisation de ces pesticides dans leur culture. Une négligence qui impacte selon eux redoutablement la commercialisation et surtout qui détériore incontestablement l'image de ce produit haut de gamme. Le gouvernement acquiesce et note qu'il est indispensable que la vanille de Tahiti soit certifiée d'une culture raisonnée et contrôlée et annonce donc des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les protocoles établis par l'EPIC Vanille de Tahiti ainsi que des analyses approfondies qui interviendront avant la mise sur le marché.
On reparle de la nomination du dirigeant de TNTV.
Oui, ou plutôt des dirigeants, puisqu'après un long feuilleton de sélection, Moëté Brotherson avait annoncé la semaine dernière la nomination de Karl Tefaato comme directeur général et de Yves Aupert comme directeur général délégué. Un duo qui naît, et ce n'était pas prévisible, pas du goût des syndicats de la chaîne qui ont envoyé une lettre commune au président du pays. Ils estiment que cette direction à deux têtes va ralentir les réformes et les projets de la chaîne, qui en a pourtant besoin. Ils s'interrogent aussi sur le rôle de chacun, notamment celui de Yves Aupert, mis en charge de l'information, après avoir été de longues années le chef de la communication de la présidence sous Gaston Floss ou Edouard Fritsch. Les représentants du personnel s'interrogent aussi sur le processus de sélection lui-même, dans lequel ni les votes du jury, qui avait placé Michael Charlet en tête, ni le vote du personnel, qui avait plébiscité Yves Aupert, n'a réellement été respecté. C'est enfin l'impact financier de cette décision qui provoque du ressentiment. 28 millions de francs pour deux directeurs, alors que le gouvernement prône des économies et que les syndicats interpellent sur la précarité de certains salariés. Bref, beaucoup de questions et beaucoup de frustrations. La méthode Brotherson sur les nominations n'en finit pas d'interroger.
Et puis de la culture pour finir, le nouveau FIFO officiellement lancé.
Oui, alors que les projections ont démarré avec les soirées spéciales le week-end dernier, le Festival international du film documentaire océanien était officiellement inauguré ce mardi matin à la Maison de la Culture. Le jury présidé par la néo-zélandaise Braya Gray-Smith est à l'œuvre depuis 9h. Il aura visionné les 10 films en compétition pour décerner les prix qui seront remis lors de la soirée de remise le vendredi 9 février. Les membres de ce jury étaient d'ailleurs impatients de commencer le visionnage. Comme Eretu Tetaihotupa, il a découvert l'audiovisuel au festival et a présenté avec Christophe Cordier le film intitulé Patou Tiki, qui a obtenu le prix du public en 2019.
Je suis un enfant de FIFO, j'ai touché ma première caméra au cours d'un des FIFO, avec les ateliers de réalisation et de cadrage, et j'ai découvert ma passion pour l'audiovisuel grâce au FIFO. Donc je dois énormément à ce festival. C'est une longue histoire qui s'écrit avec le FIFO et qui continue d'évoluer. Et cette année, je suis tellement heureux et honoré d'avoir ce poste.
Et cette année, un film polynésien est en lice dans la sélection. William Albert Robinson, La dernière traversée, réalisé par Paul Manaté. Et Denis Pinson, on l'a dit, la remise des prix, ce sera le 9 février. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain point avec l'actualité, ce sera le flash de la rédaction. Et c'est bien sûr à 16h.